Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, souffrance et honte pour la communauté catholique. Ce sont les mots du pape François lors de sa visite à Dublin en Irlande. Après les multiples scandales de pédophilie partout dans le monde, on y revient avec Mathilde Imberti. Alexei Navalny, à nouveau interpellé à Moscou, l'opposant numéro 1 au Kremlin, a été arrêté devant chez lui pour des motifs encore inconnus. Les précisions de Claude Brouillot dans ce journal. Un mois tout pile après les incendies meurtriers en Grèce qui ont fait 96 morts. Le gouvernement est toujours la cible des critiques sur la gestion de la crise. Une gestion considérée comme catastrophique, nous dira Angélique Kourounis à Athènes. Et puis nous reviendrons en France où le week-end des rentrées politiques bat son plein. Les amphis de la France insoumise se déroulent en ce moment à Marseille avec le discours de Jean-Luc Mélenchon. On fera le point avec notre envoyée spéciale Sophie Delpont. Et nous irons enfin à Montpellier où se déroule aujourd'hui le congrès mondial de l'aquaculture. Une activité florissante en France. Myriam El-Kurdi s'est rendue sur place. Le pape François est arrivé ce midi en Irlande afin de clôturer la rencontre mondiale des familles. Mais il est surtout attendu sur le dossier sans fin des abus du clergé. L'église irlandaise a été discréditée par des scandales en série. Sur place, le pape a reconnu l'échec de l'église à affronter des crimes ignobles. Des crimes qui ont justement suscité l'indignation et restent une cause de souffrance et de honte pour la communauté catholique. À Dublin, la correspondance de Mathilde Imberti.
Le pape n'y échappe pas. Dès le premier discours officiel qui lui est adressé, il est interpellé sur les abus sexuels par le premier ministre irlandais, en l'occurrence, Leo Varadkar, qui lui demande de rendre justice aux victimes.
Les blessures sont encore ouvertes et il y a beaucoup à faire pour que les victimes et les survivants obtiennent justice, vérité et guérison. Saint-Père, je vous demande d'utiliser votre position et votre influence pour que cela se passe ici, en Irlande et dans le monde entier.
Le pape décide de reparler de sa lettre au peuple de Dieu publiée cette semaine, insistant sur l'engagement nécessaire de l'entière communauté catholique sans avancer de pistes supplémentaires.
L'échec des autorités ecclésiastiques qui n'ont pas réussi à affronter de manière adéquate ces crimes ignobles a, à juste titre, suscité l'indignation et reste pour la communauté catholique une cause de souffrance et de honte. Des sentiments que je partage.
Les victimes de prêtres pédophiles font savoir qu'elles n'entendent rien de nouveau dans l'intervention du pape qu'elles jugent décevante. Demain, à l'heure de la grande messe à Dublin, elles ont prévu de se rassembler en signe de protestation dans le centre-ville.
Et des milliers d'Argentins tournent le dos à l'Église catholique. Le pays d'origine du pape François connaît une vague d'apostasie, c'est-à-dire de renonciation au baptême. 3000 Argentins ont déposé leur demande vendredi au siège de la conférence épiscopale à Buenos Aires. Le pays d'Amérique latine est pourtant très croyant. 75% de la population se considère catholique. Mais le non à la légalisation de l'avortement le 9 août dernier a créé une cassure avec une partie de la population. Philippe Levillain est historien et spécialiste de la religion. Pour lui, cette situation était prévisible.
Non, ça ne m'étonne pas, c'est l'effet du temps moderne, de la mondialisation, du fait que ce qui se fait ailleurs peut se faire dans son pays. C'est aussi le fait de la libération de l'homme et de la femme vis-à-vis de la morale chrétienne et de la morale de l'Église. C'est partout une remise en cause de l'enseignement de l'Église. C'est ça la crise la plus grave. Elle concerne pas seulement l'enseignement de l'Église, mais elle concerne aussi les mœurs de l'Église. Ce que le pape a appelé le cléricalisme, c'est un bon mot qu'on lui a contesté, c'est le fait que l'Église n'est pas une société qui peut se protéger face à la société en estimant qu'elle a toujours le droit pour elle, le droit moral, et il faut s'y plier. Il y a une véritable remise en question de la morale de l'Église et de sa doctrine morale. Maintenant, ce qui est réclamé, c'est une Église beaucoup plus humaine encore, c'est-à-dire celle qui comprenne les besoins quotidiens et qui ne propose pas des règles qui sont dans certains cas considérés comme intolérables. C'est général, c'est dans le monde entier, hein, sauf le continent africain, qui est à cet égard probablement le plus proche de l'enseignement de l'Église.
Philippe Levillain au micro de Aurore Jarnoux. L'ONU renvoie l'Italie et l'Union européenne dos à dos. L'organisation exhorte Rome à débarquer les migrants bloqués à bord d'un navire des gardes-côtes italiens en Sicile, tout en appelant les Européens à les accueillir d'urgence. Plus d'une semaine après le sauvetage de 190 migrants du 15 au 16 août dernier en Méditerranée par le Diciotti, 16 d'entre eux ont été autorisés tout à l'heure à débarquer en Sicile. Il s'agit des 11 femmes et de 5 hommes. Plus de 130 se trouvent toujours à bord, d'autres dont une trentaine de mineurs avaient déjà été autorisés à débarquer. Alexeï Navalny, l'opposant numéro un de Vladimir Poutine, a été interpellé aujourd'hui devant son domicile. C'est sa porte-parole qui l'a annoncé sur Twitter, soulignant que les motifs de cette arrestation sont inconnus. Alexeï Navalny dénonce régulièrement la corruption du pouvoir. Il s'est récemment attaqué à la réforme des retraites en préparation. C'est la cinquième fois en un an et demi qu'Alexeï Navalny fait l'objet d'interpellations, prolongées le plus souvent par des séjours en prison. À Moscou, Claude Bruyot.
C'est pour l'empêcher de s'exprimer sur les réseaux sociaux dans une émission en direct qu'Alexeï Navalny a été interpellé devant son domicile par les policiers et conduit dans un commissariat de quartier. La figure numéro un de l'opposition en Russie avait prévu de s'exprimer dans le cadre de son combat contre le projet de loi de réforme des retraites. Alexeï Navalny et son mouvement ont demandé une autorisation d'organiser une manifestation le 9 septembre, notamment à Moscou, jour de l'élection municipale. Demande qui sera sans doute refusée, mais qui n'empêchera sans doute pas encore une fois les opposants au Kremlin de se réunir. Le leader de l'opposition russe, qui risque une nouvelle détention administrative, critique entre autres l'augmentation importante de l'âge du départ à la retraite à 65 ans pour les hommes contre 60 actuellement et à 63 ans pour les femmes contre 55 aujourd'hui. En revanche, le Kremlin a autorisé la manifestation organisée par les communistes dans le même genre le 2 septembre, mais en limitant le nombre de manifestants à 15 000.
Un accord commercial entre les États-Unis et le Mexique serait en vue, c'est ce qu'a affirmé Donald Trump dans un tweet matinal. En attendant, des négociations sur la refonte de l'accord de libre-échange nord-américain sont toujours en cours entre les deux pays. Et la Chine a dénoncé les propos du président américain à propos de l'annulation du voyage en Corée du Nord de son secrétaire d'État Mike Pompeo. Une annulation due au manque de coopération de Pékin, selon Donald Trump. Pékin qui dénonce des propos irresponsables et contraires à la réalité. C'était il y a un mois, presque jour pour jour, en Grèce éclataient les incendies les plus meurtriers de l'après-guerre. Ils ont déjà fait 96 morts et encore plus d'une dizaine de blessés dans un état critique. Le bilan est toujours provisoire. Le gouvernement d'Alexis Tsipras a reçu de violentes critiques sur la gestion de la crise, considérée comme catastrophique, brouillon et inappropriée. Il met les bouchées doubles pour rattraper la situation, Angélique Kourounis.
Sur fond de campagne électorale larvée, des législatives sont prévues au plus tard dans un an et le débat sur l'organisation des secours faisant toujours rage, Alexis Tsipras met les bouchées doubles pour faire face aux critiques de plus en plus dures. Pas moins de 6 ministères sont impliqués dans la procédure d'indemnisation et une enveloppe de 4,5 millions a été dégagée en faveur des sinistrés dont environ la moitié aurait déjà été, selon la presse grecque, indemnisée, une première dans le pays. Alexis Tsipras veut innover aussi avec la mise en place d'une politique de prévention inédite dans le pays, ainsi une commission d'enquête indépendante avec à sa tête le professeur Goldamer, un Allemand qui dirige le Centre mondial du suivi des incendies, a été mise en place. Cette commission doit enquêter sur les causes de l'incendie de Mati et rédiger un rapport sur les mesures nécessaires pour renforcer la protection contre les catastrophes naturelles dans tout le pays, qu'il s'agisse d'incendies, d'inondations ou même de tremblements de terre. Enfin, les trois premières maisons des quelque 3500 promises à la démolition par le gouvernement dans le cadre d'une remise en ordre de l'urbanisme du pays ont été effectivement démolies. Un appel d'offres pour la destruction des 400 suivantes a même été lancé, mais peu de Grecs croient que ces dernières le seront effectivement. Jusqu'à présent, le coût politique d'une telle opération a toujours éloigné les bulldozers au dernier moment.
67 personnes tuées par le virus Ebola en République démocratique du Congo. C'est le bilan des autorités sanitaires congolaises. Elles ont aussi annoncé 11 cas de guérison. Mais le scénario redouté semble se dessiner. L'épidémie a franchi les lignes rebelles et a gagné notamment la ville d'Oicha, ville située dans une zone de grande insécurité selon l'OMS, ce qui complique la lutte contre l'épidémie. Je me considère légitimement comme le dirigeant du Zimbabwe. Ce sont les mots de Nelson Chamisa, le chef de l'opposition. Et ce, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui confirme la victoire du président sortant, Emmerson Mnangagwa, le président qui doit être investi officiellement demain. Au Mali, l'opposition maintient la pression sur la présidentielle. Plus de 5000 partisans de l'opposant Soumaïla Cissé ont défilé aujourd'hui dans les rues de Bamako. Soumaïla Cissé, officiellement battu à l'élection présidentielle face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, il a été crédité de presque 33% des voix contre plus de 67% pour Ibeka. Tous les recours de l'opposition ont été rejetés par la plus haute juridiction du pays. À Taïwan, 6 morts et des milliers de personnes évacuées après 2 jours de tempête tropicale. Une tempête d'une sévérité extrêmement rare d'après l'Agence météorologique nationale. Certaines régions du centre et du sud du pays ont reçu depuis jeudi près d'1 mètre d'eau. Et retour en France, à Marseille, où Jean-Luc Mélenchon prend la parole lors des amphis d'été de la France insoumise. Bonsoir Sophie Delpont.
Vous m'entendez ?
Bonsoir Sophie Delpont.
Oui, bonsoir.
Le discours vient de commencer, c'est un discours très attendu et pour le leader de la France insoumise, c'est l'occasion de lancer une année forte en enjeux électoraux.
Oui, Jean-Luc Mélenchon espère insuffler une dynamique, une énergie à ses troupes, à l'image du Mistral marseillais qui balaie en ce moment le parc Chanot. Au début de son discours, il a appelé les insoumis à mener des actions partout où l'État est défaillant, à s'auto-organiser pour mener des combats locaux. Un an après son discours lancé depuis Marseille, où il avait appelé à déferler en masse contre ce qu'il qualifiait de coup d'État antisocial d'Emmanuel Macron, c'est donc un retour du leader de la France insoumise sur ses terres marseillaises. Il s'exprime en ce moment devant plus d'un millier de militants réunis à ces amphis d'été, les insoumis qui revendiquent 3200 participants sur 4 jours. Il espère faire des élections européennes, un référendum anti-Macron. Le slogan « Macron, on vient te chercher » a déjà été d'ailleurs scandé hier soir dans les rues de Marseille au cours d'une déambulation festive avec ses militants. Le discours de Jean-Luc Mélenchon se déroule en ce moment. Au menu de ce discours, il devrait y avoir 3 axes majeurs, l'écologie, le social et les élections européennes. Une occasion de vote sanction face aux réformes passées l'année dernière, la loi travail, la réforme de la SNCF notamment, et face aux réformes à venir. On parle évidemment de la réforme des retraites, mère de toutes les batailles, comme l'a qualifié Jean-Luc Mélenchon depuis Marseille le 5 juillet dernier au cours d'un discours. Le leader de la France insoumise revendique donc la place de première force d'opposition en ayant profité de ses universités d'été pour accueillir des représentants d'autres forces politiques du Parti communiste à la droite. Jean-Luc Mélenchon qui a d'ailleurs remercié les parlementaires, les Républicains, d'être venus, d'avoir répondu à son invitation. Il devrait également rappeler la position de la France insoumise sur l'Europe, notamment la fameuse stratégie du plan A, plan B, c'est-à-dire la menace d'une sortie de l'Union européenne en cas d'échec, d'une sortie concertée des traités européens et la négociation d'autres règles. Le plan B, une position qualifiée d'électoraliste par l'un des anciens fondateurs du mouvement, l'ex-socialiste insoumis Lee Manok, qui accuse le chef de file de la France insoumise de volonté hégémonique et d'un retour à la vieille politique, avec la volonté d'écraser les autres forces de gauche. Le chef de la France insoumise souhaite au contraire les accueillir pour peu qu'elle se plie à son programme. Jean-Luc Mélenchon, qui pour l'instant a dressé une priorité, c'est d'enclencher la future bataille électorale, les élections européennes qui sont toujours l'occasion malheureusement d'une abstention très forte. Le député de la France insoumise espère mobiliser au-delà de ses rangs. La bataille des retraites aussi, pour laquelle il espère cette fois gagner le point après la défaite l'année dernière sur les ordonnances travail.
Merci Sophie Delpont, vous étiez en direct de Marseille avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Et toujours dans ce week-end de rentrée politique, le Parti communiste est réuni de son côté à Angers, en université d'été. Il se veut déterminé à combattre la politique libérale et d'austérité dévastatrice menée par Emmanuel Macron et l'Union européenne. Et du côté des Républicains, le président du parti, Laurent Wauquiez, fera sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc demain, 2 jours après la rentrée de Valérie Pécresse et de son mouvement libre à Brive-la-Gaillarde. La porte-parole des Républicains, Laurence Saillé, l'a mise en garde contre la division, une machine à perdre selon elle. Enfin, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a clos tout à l'heure à La Rochelle le séminaire de son mouvement, l'occasion pour lui de donner le ton de la rentrée. Pour les socialistes, elle sera offensive. Olivier Faure n'entend pas faire de cadeau à la politique d'Emmanuel Macron.
Le modèle français n'est pas celui d'Emmanuel Macron. Il voit dans les décennies passées une suite d'échecs. La solidarité, la redistribution, la lutte contre les inégalités ne sont plus son affaire. Pour Emmanuel Macron, la vision, c'est le marché jusqu'au bout. Pour nous, depuis Jaurès, c'est la République jusqu'au bout. Deux visions du monde, deux regards sur l'humanité. Pour nous, le capital, ça reste l'humain. Alors oui, chers amis, chers camarades, cette rentrée va être celle d'une force d'opposition. Déterminée, offensive, et les combats vont être nombreux. Le président nous dit, pour partager le gâteau, je le cite, il faut qu'il y ait un gâteau. Jusque-là, tout le monde suit. Mais sa politique fiscale a coupé les moteurs de la croissance. La consommation des ménages a chuté dès lors que le choix a été fait de leur faire payer à eux les 45 à 50 milliards de cadeaux fiscaux faits à quelques-uns.
Et Nordal Lelandais reste en détention provisoire, décision du parquet de Grenoble qui prolonge son mandat de dépôt pour 6 mois. Nordal Lelandais est mis en examen dans 3 affaires, dont celle de la mort de la petite Maëlys. La météo pour demain, un ciel nuageux au réveil ce dimanche sur l'ensemble de l'Hexagone, avec notamment un risque d'averse sur la Bretagne, de la Bretagne à la Normandie. La perturbation se décalera ensuite jusqu'aux Hauts-de-France, donnant des pluies faibles. Sur le reste du pays, l'après-midi sera ensoleillé. Sur les bords de la Méditerranée, le vent soufflera en rafale jusqu'à 90 km/h. Côté température, il fera autour de 9 degrés demain matin à Rennes, 11 à Paris, jusqu'à 21 à Nice. Les maximales atteindront 20 degrés le long de la Manche, 22 à Metz, 26 à Bordeaux et jusqu'à 30 à Porto Vecchio.